Quatrième partie. Les terres blanches d'Empatica. Dans de l'eau. Chapitre 1. La chose en dessous du château. 1. Ils trouvèrent effectivement une cuisine de bonne taille et un office attenant au rez-de-chaussée de la gare expérimentale de l'Arc 16, pas très loin de l'hôpital. Ce ne fut pas leur seule trouvaille. Ils tombèrent sur le bureau de Sy Richard P. Sayre, jadis chef des opérations du roi cramoisi, et présentement dans la clairière au bout du sentier, grâce à la rapidité de la main droite de Susanna Dean. Posés sur le dessus du bureau se trouvaient des dossiers étonnamment complets sur E4. Ils les engouffrèrent dans la déchiqueteuse. Il y avait des photos d'Eddie et de Jack dans ces dossiers qu'ils eurent tout bonnement trop de mal à regarder. Mieux valait garder les souvenirs. Au mur étaient accrochés deux tableaux encadrés. L'un d'eux représentait un garçon fort et beau. Il était torse nu, pieds nus, les cheveux ébouriffés, le sourire aux lèvres, seulement vêtu d'un jean et d'un croc de débardeur. Il paraissait avoir l'âge de Jack, ou à peu près. Ce tableau avait une dimension sensuelle un peu dérangeante. Susanna pensait que le peintre, Sy Sayre, ou bien les deux, avait dû être à voile et à vapeur, comme elle avait parfois entendu dire des homosexuels. Le garçon avait les cheveux noirs, ses yeux étaient bleus, ses lèvres d'un rouge vif. Une cicatrice livide se découpait sur son flanc, ainsi qu'une marque de naissance, du même vermillon que sa bouche, sur son talon gauche. Un cheval blanc immaculé gisait mort à ses pieds, du sang tachant ses dents sous ses lèvres retroussées. Le pied marqué du garçon reposait sur le flanc de l'animal, et il arborait un sourire de triomphe.
« C'est l'homme Ray, le cheval d'Arthur l'aîné. » dit Roland. Son effigie ornait les bannières et les banderoles de Gilead dans la bataille, et il était le sigle de tout le monde de l'intérieur.
Alors, si on en croit ce tableau, c'est le roi cramoisi qui gagne, demanda-t-elle. Sinon, lui, du moins, mordrait de son fils.
Roland haussa les sourcils.
Grâce à John Farson, les hommes du roi cramoisi ont gagné les terres du monde de l'intérieur il y a bien bien long.
Mais il sourit. Son visage s'illumina d'une expression tellement différente de son air habituel que, comme à chaque fois, cette vision donna le vertige à Susanna.
Mais je crois que nous avons gagné la seule bataille qui compte. Ce qui est représenté dans ce tableau, c'est seulement le rêve d'une pauvre créature prenant ses désirs pour des réalités.
Puis, avec une sauvagerie qui la fit sursauter, il donna un coup de poing dans le verre qui protégeait la toile et la dégagea sans ménagement, la déchirant au milieu sur presque toute la longueur. Avant qu'il ait pu le réduire en morceaux, comme c'était visiblement son intention, Susanna l'arrêta et lui désigna le bas de la toile. Écris-là, en petit mais d'une calligraphie extravagante, ils lurent le nom de l'artiste. Patrick Danville. L'autre toile montrait la tour sombre, cylindre noir de suie effilé vers le haut. Elle se dressait tout au bout de Cancanoret, le champ de roses. Dans leur rêve, la tour leur avait semblé plus haute que le plus haut gratte-ciel de New York. Pour Susanna, ça signifiait l'Empire State Building. Dans ce tableau, elle ne paraissait pas mesurer plus de 200 mètres, ce qui pourtant ne lui retirait rien de sa majesté onirique. Les étroites meurtrières s'étageaient en une spirale ascendante, exactement comme dans leurs songes. Au sommet se trouvait une fenêtre en oriel multicolore. De chacune des couleurs de l'arc-en-ciel du magicien, Roland le savait. L'avant-dernier cercle au milieu était le rose de la boule, laissé pour un temps à la garde d'une femme sorcière du nom de Rhea. Au centre rayonnait l'ébène infernale de la 13e noire.
C'est dans la chambre derrière cette fenêtre que je voudrais aller, dit Roland en tapotant le morceau de verre qui recouvrait cette partie de la toile. Il parlait d'une voix sourde et frappée de terreur. « Cette toile n'a pas été peinte à partir d'un rêve, Susanna. C'est comme si je pouvais toucher la texture de chaque brique. Tu vois ce que je veux dire ?»«
Oui, »
dit-elle, et elle fut incapable d'ajouter un mot. La regarder ainsi dans le bureau de feu Richard Sayre, voilà qui lui coupait le souffle. Soudain, tout paraissait possible. Le but de toute cette histoire était désormais presque en vue.
« Celui qui l'a peinte a dû aller là-bas, »
pensa Roland à voix haute. « Il a dû planter son chevalet au beau milieu des roses. »
Patrick Danville. C'est la même signature que sur celui représentant Mordred avec le cheval mort. Tu as vu ?
Oui, je vois très bien.
Et tu vois ce chemin qui traverse le champ de roses jusqu'au bas des marches ?
Oui. 19 marches, je n'ai aucun doute. Vol. Et ces nuages au-dessus,
elle les voyait elle aussi. Ils formaient une sorte de tourbillon, avant de jaillir loin de la tour, comme un flot se précipitant vers le lieu de la tortue, à l'autre bout du rayon qu'ils avaient suivi jusqu'ici. Et elle vit autre chose. Sur la partie externe de la tour, à environ 15 mètres d'intervalle, se trouvaient des balcons cerclés d'une rambarde de fer forgé à hauteur de la taille. Sur le deuxième, on distinguait une tache rouge et 3 têtes d'épingles blanches, un visage miniature et 2 mains levées.
« Est-ce que c'est le roi cramoisi ?»
demanda Susanna en le montrant du doigt. Elle n'osa pas poser franchement l'extrémité de son doigt sur le verre qui recouvrait cette silhouette minuscule. C'était comme si elle s'attendait à ce qu'il prenne vie et l'aspire dans l'image.
« Oui. » enfermé à l'intérieur de la seule chose qu'il ait vraiment voulu posséder.
Alors, peut-être qu'on pourrait directement prendre les escaliers à côté de lui et le faire bisquer au passage.
Et voyant l'air perplexe de Roland, elle mima en tirant la langue. Cette fois-ci, le sourire du pistolero était plus léger et distrait.
« Je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. »
Elle soupira.
« Moi non plus, en fait. »
Ils avaient trouvé ce pourquoi ils étaient venus, et même un peu plus. Pourtant, ils eurent du mal à quitter le bureau de Sayre. Ce tableau les y retenait. Susanna demanda à Roland s'il ne voulait pas l'emporter. Il serait assez simple de le découper de son cadre avec le coupe-papier posé sur la table et d'en faire un rouleau. Roland parut y réfléchir, puis hocha la tête. Il y avait comme une aura malfaisante dans cette toile, qui pourrait attirer l'attention sur eux, comme la lumière vive les papillons de nuit. Et même dans le cas contraire, il craignait que tous les deux ils ne passent trop de temps à le contempler. Le tableau pourrait les distraire, ou pire, les hypnotiser.
En fait, il s'agit peut-être tout simplement d'un autre esprison, se dit-il. Tout comme dans Insomnie. Mieux vaut le laisser, car bien assez tôt, c'est une question de mois, peut-être même de semaines, c'est le modèle que nous aurons sous les yeux.
« Tu dis ainsi ? » demanda-t-elle d'une voix sourde. « Roland, dis-tu vraiment ainsi ? » ?»«
Oui, je le dis. » »«
Tous les trois ? Ou bien est-ce que Otte et moi, nous devrons aussi mourir pour ouvrir la voie de la tour ? « Après tout, tu as démarré tout seul, n'est-ce pas ? Peut-être que c'est également ainsi que tu dois finir ? Est-ce qu'un écrivain ne trouverait pas ça meilleur ?»«
Ça ne veut pas dire qu'il puisse le faire, » dit Roland. « Stephen King n'est pas la rivière, Susanna. Il n'est que le tuyau dans lequel elle s'écoule. »«
Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas certaine de le croire totalement. »
Roland n'était pas certain de le croire complètement lui-même. Il songea à rappeler à Susanna que Cuthbert et Alain étaient avec lui au commencement de sa quête à Mérys. Et quand ils avaient quitté Gilead la fois suivante, Jamie de Curie s'était joint à eux, transformant le trio en quatuor. Mais sa quête n'avait réellement débuté qu'après la bataille de Jericho Hill. Et oui, à l'époque, il était déjà tout seul.
« J'ai commencé en solitude, »
mais ce n'est pas ainsi que je finirai. » Elle s'était déplacée avec dextérité dans la pièce sur une chaise de bureau à roulettes. Il l'en souleva et l'installa en appui sur sa hanche droite, celle-là même qui ne le faisait plus souffrir.
« Toi et Othé serez avec moi lorsque je gravirai les marches et que je passerai la porte. Vous serez avec moi pour monter cet escalier et vous serez avec moi quand je réglerai son compte à ce lutin rouge qui cabriole. Et vous serez avec moi pour pénétrer dans la pièce au sommet. »
Susanna n'en dit rien. Pourtant, cette promesse sonnait à ses oreilles comme un mensonge. En fait, il sonnait comme un mensonge pour chacun d'eux. 2. Ils rapportèrent des boîtes de conserve, un poêlon, deux gobelets, deux assiettes et deux jeux de couverts à l'hôtel Fédique. Rolante s'était aussi muni d'une lampe torche dont la batterie presque à plat ne permettait qu'une lueur faible, un couteau de boucher et une petite hachette bien pratique à manche en caoutchouc. Susanna avait déniché deux poches en filet pour transporter ce petit guna comestible. Elle avait aussi trouvé trois boîtes de matière gélatineuse sur une étagère en hauteur dans l'office adjacent à l'infirmerie.
« C'est du méta »,
expliqua-t-elle au pistolero qui se renseignait.
« C'est pratique ce truc, on peut l'allumer.
Ça brûle lentement en produisant une flamme bleue sur laquelle on peut faire cuire des choses. »
« Je pensais qu'on ferait un petit feu devant l'hôtel, » dit Rolante. « Je n'ai pas besoin d'empuantir toute la ville pour allumer un feu, » dit-il avec une pointe de mépris.
« Non, j'imagine. Mais ça peut toujours servir. »«
À quoi ?»«
Je ne sais pas, mais... »
Elle haussa les épaules. Près de la porte vers la rue, ils passèrent devant ce qui ressemblait à un placard pour l'entretien, dans lequel s'empilaient toutes sortes d'ustensiles. Susanna avait assez vu du Dogan pour la journée et n'avait qu'une hâte, c'était d'en sortir. Mais Roland insista pour jeter un œil. Il laissa de côté les seaux et les balais à franges et s'intéressa de plus près à un méli-mélo de cordes et de courroies entassées dans un coin. Les planches en bois posées dessus suggéraient à Susanna qu'il s'agissait là d'un échafaudage bricolé. Elle avait aussi une petite idée de ce que Roland comptait faire des courroies, et elle eut un pincement au cœur. C'était comme se retrouver d'un seul coup à la case départ.
« Je croyais que j'en avais fini avec le mode sac à dos, »
dit-elle avec humeur, et une bonne dose de détat dans la voix.
« C'est le seul moyen, j'imagine. Je me réjouis juste d'être à nouveau en état de porter ton poids. »
« Et ce passage souterrain est la seule voie ? Tu en es bien sûr ?
On doit pouvoir traverser le château, »
commença-t-il. Mais déjà Susanna secouait la tête.
« Je suis allée jusqu'en haut avec Mia, ne l'oublie pas. » De l'autre côté, la dénivellation vers Discordia est d'au moins 150 mètres, sans doute plus. Il devait y avoir un escalier, il y a bien bien long, mais plus maintenant.
« Alors on est bon pour le passage, » résuma Roland, « et le passage est bon pour nous. Il se peut qu'on trouve un engin pour toi de l'autre côté, dans une ville ou un village. »
Susanna secouait de nouveau la tête.
« Je crois qu'on est à la fin de la civilisation, Roland, et je suggère qu'on s'en mitoufle autant qu'on le pourra, parce qu'il va se mettre à faire très froid. »
Il semblait cependant ne pas y avoir grand-chose dans quoi s'en mitoufler, alors que la nourriture était en abondance. Personne n'avait pensé à prévoir des pulls supplémentaires ou des blousons doublés dans les boîtes sous vide. Il y avait des couvertures, mais avec le temps, elles étaient devenues minces et fragiles, presque inutilisables.
« Je m'en fiche comme d'une guigne, » dit-elle d'une voix éteinte. « Du moment qu'on sort d'ici,
c'est ce qu'on va faire, » répondit-il.
3. Susanna est à Central Park, et avec le froid, elle fait de la vapeur en respirant. Au-dessus d'elle, le ciel est blanc d'un bout à l'autre, un ciel de neige. Elle est en train de regarder l'ours blanc qui se roule par terre sur sa petite île rocheuse, visiblement très à l'aise avec le froid, quand une main la saisit par la taille. Des lèvres chaudes embrassent sa joue fraîche.
Elle se retourne et voit Eddie et Jack. Ils ont tous les deux le sourire jusqu'aux oreilles et sur la tête des bonnets de laine rouge quasiment identiques. Celui d'Eddie porte l'inscription « Joyeux » et celui de Jack « Noël ». Elle s'apprête à leur dire « Vous ne pouvez pas être ici, les garçons, vous êtes morts ». Et alors elle se rend compte, avec un soulagement indescriptible, que tout ce bazar, depuis le début, n'était qu'un long rêve. Et comment a-t-elle pu en douter une seconde? Des animaux parlants qui s'appellent les bafous bafouilleux, ça n'existe pas, ni les créatures taïnes à corps d'homme et à tête d'animal, ni des lieux du nom de Fédic ou Château Discordia. Et surtout, les pistoleros, c'est du pipeau. C'était John Kennedy le dernier et son chauffeur Andrew avait raison à ce sujet. « On t'a apporté du chocolat chaud, » dit Eddie en lui tendant la tasse. C'est le chocolat parfait, mi-schlag sur le dessus et une pluie de noix de muscade râpée pailletant la crème. Elle en sent le parfum, et en le prenant, elle sent les doigts d'Eddie dans ses gants, et le premier flocon de neige descend entre eux en se balançant. Elle savoure comme il est bon d'être vivant dans ce bon vieux New York, comme il est bon que cette réalité soit vraiment le réel et qu'ils soient tous ainsi réunis en l'an de grâce. Quel an de grâce ? Elle fronce les sourcils, parce que c'est une question d'importance, n'est-ce pas ? Après tout, Eddie est un homme des années 80 et elle n'a jamais dépassé 1964. Ou est-ce que c'était 1965 ? Quant à Jake Chambers avec son Noël imprimé sur le front, ne vient-il pas des années 70 ? Et si à eux trois, ils représentent trois décennies différentes de la seconde moitié du XXe siècle ? Qu'ont-ils en commun ? En quelle année est-on ? 19, dit une voix sortie de nulle part. C'est peut-être celle de Bango Shank, le grand personnage perdu. On est en 19, on est vol. Tous tes amis sont morts. Et à chacune de ces paroles, le monde se fait moins réel. Elle voit à travers Eddie et Jack. Quand elle baisse les yeux, elle voit l'ours polaire étendu mort sur son île rocheuse, les quatre pattes en l'air. La bonne odeur de chocolat chaud se dissipe, remplacée par un relent de moisie. Le vieux plâtre, le bois ancien. L'odeur d'une chambre d'hôtel dans laquelle plus personne n'a dormi depuis des années. « Non !» gémit son esprit. « Non, je veux Central Park, je veux Monsieur Joyeux et Monsieur Noël. Je veux le parfum du chocolat chaud et les premiers flocons hésitants de décembre. J'en ai assez de Fédic, du monde de l'intérieur, de l'entre-deux-mondes et du monde ultime. Je me fiche de voir un jour la tour sombre. » Les lèvres d'Eddie et de Jack bougent à l'unisson, comme s'ils chantaient une chanson qu'elle n'entend pas. Sauf que ce n'est pas une chanson. Les mots qu'elle lit sur leurs lèvres juste avant que le rêve ne s'effondre sont... 4. Surveille dans de l'eau. Elle s'éveilla avec ces paroles sur les lèvres, frissonnant dans la lumière juste avant l'aube. Et là aussi, elle vit la vapeur de son souffle. Cette partie-là, au moins, de son rêve était vraie. Elle se toucha les joues et les essuya. Il ne faisait pas tout à fait assez froid pour geler les larmes sur sa peau, mais c'était tout juste. Du regard, elle balaya la chambre morne de l'hôtel Fédic, et elle aurait donné très cher pour que son rêve de Central Park fût la réalité. Pour commencer, elle avait dû dormir par terre. Le lit n'était en gros qu'une sculpture de rouille sur le point de tomber en poussière, et elle avait le dos raide. Ensuite, les couvertures dont elle s'était faite un matelas de fortune et celles qu'elle avait enroulées autour d'elle étaient toutes parties en lambeaux quand elle avait bougé au cours de la nuit. L'air chargé de poussière lui chatouillait le nez et lui tapissait la gorge, et elle avait l'impression d'avoir attrapé le pire rhume de l'univers. Et elle tremblait. Et elle avait envie de faire pipi, ce qui signifiait se traîner tout le long du couloir sur ses moignons et ses mains à demi engourdies.
Mais ce n'était pas vraiment tout ça le problème de Susanna Odetta Holmsteen par ce beau matin, pas vrai? Son problème, c'est qu'elle sortait d'un rêve merveilleux pour se retrouver dans un monde. On est en 19, tous tes amis sont morts. Dans lequel elle se sentait si seule qu'elle en devenait à moitié folle. Son problème, c'est que le point où le soleil se levait n'était pas nécessairement l'est. Son problème, c'est qu'elle était triste et fatiguée, qu'elle avait le mal du pays et le cœur en bandoulière, que le chagrin et la déprime la frappaient de plein fouet. Son problème, à une heure de voir le jour se lever dans cette chambre d'hôtel de musée saturée de poussière et de fibres de laine en suspension, c'est qu'elle avait vraiment l'impression qu'elle venait de se faire baiser dans les grandes largeurs. Elle voulait qu'on lui rende son rêve. Elle voulait qu'on lui rende Eddie.
« Je vois que tu es réveillé, toi aussi, » fit une voix.
Susanna pivota sur les mains si rapidement qu'elle récolta une grosse écharde du parquet. Le pistolero était appuyé contre la porte, entre la chambre et le couloir. Il avait tissé les courroies en une sorte de harnais qui n'était que trop familier à la jeune femme et qu'il s'était passé à l'épaule gauche. À droite, il portait le sac de cuir contenant leur nouveau butin et les oryzas restants. Otte était assis au pied de Roland et la regardait d'un air solennel.
« Vous venez de me faire une trouille bleue, Saïd Chen, » dit-elle.
« Tu as pleuré. »
« Je ne vois pas ce que ça peut te faire, que j'ai pleuré ou pas.
On se sentira mieux quand on sera parti d'ici. » Fédic est figé.
Elle voyait exactement ce qu'il voulait dire. Le vent avait soufflé avec fureur toute la nuit, et en l'entendant gémir dans l'entretoise de l'hôtel et du saloon adjacent, elle avait cru entendre des cris d'enfants. Des petits tellement perdus dans le temps et l'espace qu'ils ne retrouveraient plus jamais le chemin de la maison.
« D'accord, mais, Roland, avant qu'on traverse cette rue et qu'on entre dans le Dogan, je veux que tu me promettes une chose. »«
Quelle promesse attends-tu de moi ?»«
Si quelque chose fait mine de nous avoir, un monstre sorti tout droit du cul du diable ou des entre-terres Vahadash, promets-moi de me mettre une balle dans la tête avant que ça se produise. En ce qui te concerne, tu peux faire ce que tu veux, mais... » « Quoi? Pourquoi tu me tends ce truc ?»
C'était l'un de ses pistolets.
« Parce que ces derniers temps, je m'en sors beaucoup mieux avec un seul. Et parce que ce n'est pas moi qui prendrai ta vie. Mais si jamais tu décides de le faire toi-même...
Oh, Roland, tes putains de scrupules me fascineront toujours. »
Puis elle s'empara de l'arme d'une main et de l'autre désigna le harnais.
« Quant à ce truc... » Si tu crois un instant que je vais me faire balader dedans, c'est que tu as viré fou allié. »
Un léger sourire vint aux lèvres du pistolero.
C'est mieux quand on est tous les deux, non?
Elle soupira puis hocha la tête.
Un peu mieux, ouais, mais c'est loin d'être parfait. Allez, mon grand, tirons-nous d'ici. J'ai le cul comme un glaçon et cette odeur est en train de me tuer les sinus.